Bonjour, chers auditeurs, Jean-René l'Admiral au micro, pour un nouvel épisode de mon émission Parole et Pensée, dans le cadre d'une des séries de cette émission que j'ai intitulée Esquisse philosophique. Et l'épisode d'aujourd'hui est consacré à ce que j'ai appelé un hommage à Jürgen Habermas. Jürgen Habermas est un philosophe et un sociologue allemand qui est mort le samedi dernier, samedi 14 mars 2026, et qui est une figure intellectuelle de premier plan en Allemagne, mais avec un grand rayonnement international. Et donc, Jürgen Habermas est mort le 14 mars 2026 à Starnberg. Il avait 96 ans. C'est une figure intellectuelle de premier plan par ses recherches, par sa théorisation, mais aussi par ses interventions dans l'actualité, dans le cadre de l'actualité politique, et par son travail dans le journalisme, si bien que il arrive qu'il soit controversé, puisque quand on prend position, on a toujours des contradicteurs. Et alors, d'une façon générale, on peut dire que Jürgen Habermas incarne la deuxième génération de l'école de Francfort. Alors, je serai amené à préciser un peu ce qu'il en est de l'école de Francfort, mais avant, quelques mots sur Habermas, deuxième génération de l'école de Francfort. Il est philosophe et sociologue, et la différence entre les deux n'est pas très marquée. Il y a une continuité de la philosophie à la sociologie, ou plutôt inversement, de la sociologie à la philosophie. Et plus généralement, il tend à une synthèse interdisciplinaire, totalisant les différentes sciences humaines dans la perspective d'une philosophie critique. Sa production publicataire est très, très abondante, des articles extrêmement nombreux, mais aussi plus d'une dizaine de livres. Et encore une fois, il a connu très tôt la notoriété, et il est à la fois hautement reconnu par les uns et vivement critiqué par les autres, très souvent cité et largement traduit. Je reviendrai sur les problèmes de la traduction, d'autant que c'est par ce biais que j'ai fait connaissance de Jürgen Habermas, ayant fait la première traduction française de ses travaux, avec un livre qui porte le titre « La technique et la science comme idéologie », qui pourrait sembler un peu périphérique dans la mesure où c'est un recueil d'articles. Et j'avais accepté cette proposition qui m'avait été faite par Gallimard, et quand j'ai vu Habermas qui est venu me voir à Paris, il m'a dit qu'il était justement très heureux que ce soit ce livre qu'on ait traduit d'abord. Alors, encore une fois, donc c'était la première fois qu'on traduisait Habermas. J'ai aussi fait les premiers commentaires, donc je suis un peu souvent par auto-ironie, je dis j'ai inventé Habermas, au sens où on invente une épave, sauf que Habermas n'est pas une épave, mais je l'ai inventé au sens où je l'ai fait exister alors qu'il existait déjà en Allemagne. J'ai fait la première thèse sur Habermas en 1972. Et j'ai fait les premiers textes présentant Habermas au public français. Entre-temps, d'autres, bien sûr, se sont engagés dans la brèche que j'avais ouverte. Marc Delaunay, Christian Buchendom, Rainer Horchlitz, Jean-Marc Ferry, avec une thèse d'État importante, et puis beaucoup d'autres. Alors, nous avions, Habermas et moi, au moins, une relation intellectuelle, mais aussi une relation amicale. Quand il venait à Paris, il me l'indiquait, nous déjeunions ensemble. Je lui ai fait d'ailleurs découvrir les restaurants parisiens. Il m'a reçu à Starnberg, on expliquera tout à l'heure ce que c'est que Starnberg. C'est une petite ville au bord du lac où il y avait un Max Planck Institute, où finalement Habermas a œuvré pendant quelques années. Habermas m'a fait l'amitié, l'honneur, si on veut, de venir même à mon séminaire à Nanterre. Et j'ai vu qu'il était très heureux de faire un amphi, comme on dit. Il est bossé au tableau. Et alors, moi, je traduisais, évidemment. C'était un exercice un peu périlleux. Le public était tout à fait intéressé. Alors, on comprend parce que Habermas avait été professeur à Francfort, je vais y revenir, et il s'était retiré dans un Max Planck Institut, un institut de recherche, qui lui donnait tout son temps pour mener ses recherches, mais qui en même temps le privait du rapport à un public étudiant. C'est pour ça que, en intervenant dans mon séminaire à Nanterre, il était tout content. J'avais commencé à le présenter, il se lève, il prend la craie, il écrit au tableau, et je devais me livrer à cet exercice périlleux de faire une traduction à chaud, bien sûr. Alors, Habermas, j'ai dit, assez tôt une certaine notoriété, et quand j'étais à Berlin, dans l'année 1966-67, d'abord, j'ai assisté à l'apparence des troubles étudiants, et on va y revenir, qui anticipaient 68 à Paris. En gros, il y a une séquence Berkeley aux États-Unis, Berlin, puis Paris, puis Milan et beaucoup d'autres villes. Et donc, quand j'étais étudiant à Berlin, j'avais découvert le premier livre de Habermas qui s'appelait Théorie et pratique, Theory and Praxis. Et à cette époque, les étudiants redécouvraient l'école de Francfort qui avait été enfouie dans l'oubli. Et à cette époque, donc à Berlin et en Allemagne, on avait accès aux textes de l'école de Francfort, mais sous la forme d'éditions pirates, de Raubdrucke, parce que les livres n'étaient pas censurés, mais ils n'étaient plus accessibles. Et donc, le livre de Habermas ouvrait la voie à ce qu'allait devenir son immense carrière, son œuvre très importante. En fait, Habermas relève de ce qu'on pourrait appeler le néo-marxisme universitaire. Alors maintenant, avec le recul, est-ce que c'est dépassé? Est-ce que le marxisme, ça n'est pas encore un peu l'air du temps? La référence au marxisme qui à cette époque, il y a 20-30 ans, était très valorisé, il est beaucoup moins maintenant, et on comprend bien pourquoi. Nous pouvons tirer du marxisme un certain nombre de connaissances, et par exemple, Habermas a publié assez tardivement un livre qu'il appelait « Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus », c'est-à-dire pour une reconstruction du matérialisme historique. Le matérialisme historique, je le précise au passage, c'est ce qu'on appelle en rhétorique une antonomase. L'antonomase, c'est la figure qui consiste à remplacer un nom propre par un nom commun ou un nom commun par un nom propre. Ainsi, par exemple, plutôt que de dire « marxisme », on va dire « qui est marqué par la personne, le nom propre de Marx, le matérialisme historique. De la même façon, on verra que l'école de Francfort se définit comme une théorie critique de la société. Donc on remplace le nom propre Francfort par une expression de nom commun. De même, Kant, par exemple, au lieu de dire le kantisme, on peut dire la philosophie critique. Bref, alors l'antonomase, j'aime bien les figures de rhétorique, celle-ci en tout cas, et c'est pour ça que je fais un petit point de vocabulaire sur la question. Alors maintenant, quant à Habermas lui-même, sa biographie est celle d'un universitaire. Il est né le 18 juin 1929 à Düsseldorf, et il a grandi dans un milieu bourgeois, et dans la bonne tradition des philosophes allemands, il avait un pasteur dans sa famille, c'est-à-dire son grand-père. D'une façon générale, on mesure à quel point le protestantisme, le luthéranisme a eu en Allemagne un rôle important, dans la mesure où beaucoup de philosophes, d'intellectuels, d'écrivains ont des pasteurs dans leur famille. Non pas qu'il y ait tant de pasteurs que ça, mais les familles de pasteurs étaient donc des milieux où la vie intellectuelle, la vie artistique, la vie intellectuelle surtout, était dans le prolongement de la réflexion théologique. Ce sera l'objet d'une prochaine émission, peut-être un jour. Alors, Habermas a fait des études universitaires auprès de différents philosophes, je ne vous les énumère pas, il y a eu Nicolas Hartmann et beaucoup d'autres, mais parallèlement à ses études universitaires en philosophie, qui était sa spécialité, son Hauptfach, comme on dit dans la tradition universitaire allemande, il était un petit peu touche à tout. Et, ou plutôt, il s'intéressait il y avait une ouverture interdisciplinaire, avec une ouverture vers l'histoire, la psychologie, la littérature allemande, l'économie, bref, un esprit très ouvert. Et moi, je m'y reconnais d'autant plus volontiers que, ayant fait, comme lui, plus modestement, bien sûr, des études de philosophie qui étaient mon domaine d'études puis de recherche principale, j'ai toujours été tenté d'aller regarder à côté. J'ai donc travaillé en sciences du langage, en psychologie sociale et dans les études germaniques. Et je trouve que il y a là une tentation qui est outre un phénomène personnel, je dirais, me concernant, je dirais que c'est un donjuanisme interdisciplinaire. Mais c'est aussi la curiosité. Et la philosophie, dans son exigence de conceptualisation théorique, avec les risques naturels de l'abstraction, ce sont des risques pour des lecteurs qui ne pratiquent pas la philosophie ou qui en ont un souvenir flou, si bien que entrer dans un texte de philosophie est parfois difficile. Et surtout dans la tradition allemande, où je dirais que, ma formule c'est, les philosophes allemands ont une certaine coquetterie de l'obscurité. Alors que, comme on sait, les philosophes français sont des écrivains qui sont éminemment lisibles, parce que ce sont de grands écrivains. Citons d'abord Descartes et Pascal, et puis aussi Malebranche, et puis ensuite, je dirais Rousseau malgré tout, Montesquieu, il y en a un dont le nom m'échappe, qui est l'auteur du Neveu de Rameau, qui est aussi une œuvre littéraire géniale, et puis plus récemment, Bergson, le philosophe qui a eu une très grande importance, qui a écrit très bien et qui a eu le prix Nobel de littérature. Et plus récemment encore, bien sûr, Sartre, Merleau-Ponty. Et puis les philosophes très récents comme Michel Foucault, notamment aussi Derrida ou Deleuze, Gilles Deleuze, ont une volonté d'écriture littéraire. C'est vrai aussi des historiens français. Il y a une sorte d'espérance littéraire implicite dans la culture intellectuelle française. Le bénéfice de cela, c'est que nous lisons avec plaisir des philosophes qui ont le charme littéraire de textes bien écrits et la clarté, et ça c'est la clarté de la langue française, mais la clarté de la tradition de langue française qui font que on peut toujours lire du Camus, j'ai oublié de mentionner Camus, et le nom qui m'échappait tout à l'heure dans les philosophes du XVIIIe, c'était Diderot. J'écarte Voltaire, que je n'aime pas du tout, et d'ailleurs, pour ceux qui seraient encore, Voltaire est un grand écrivain, c'est certain. C'est le Mozart de la prose française. Mais il n'est pas vraiment philosophe, il est surtout polémiste. Et puis, il fait surtout de l'importation de pensées extérieures, anglaises notamment. Si bien que je l'écarte du panthéon des philosophes du XVIIIe. Habermas fait sa thèse sur Schelling, un philosophe allemand qui est dans la mouvance du fin 18e, début 19e, avec des grands comme Hegel, par exemple, ou Fichte. C'est la triade Hegel, Fichte, Schelling. Et parallèlement, alors, ou plutôt dans le prolongement de cette thèse, il fait des recherches sur l'histoire du concept d'idéologie. Et ça, c'est très important, parce que le concept d'idéologie est un concept central dans le marxisme et un concept qui garde toute sa validité, quoi qu'on pense d'une façon générale du marxisme. Mais, encore une fois, parallèlement, Habermas a eu très tôt des activités journalistiques, écrivant des articles sur la littérature, sur le théâtre, évidemment sur la philosophie, et en partie sur les événements de son temps. Nanti de sa thèse, donc docteur, Herr Doktor, de 1956 à 1959, il devient l'assistant de Theodor Wiesengrund Adorno, à l'Institut für Sozialforschung. Alors, quelques mots d'explication. L'Institut für Sozialforschung, l'Institut pour Recherche Sociale, c'est le nom, c'est une école qui a été fondée en 1923 et qui va devenir l'école de Francfort. Au départ, c'est un institut qui se voulait à la fois universitaire, savant et en même temps critique. Et au départ, l'Institut für Sozialforschung avait d'abord un rapport à l'austro-marxisme. Enfin, c'est un point d'histoire, de détail, qui ne nous intéresse pas directement. Cet Institut für Sozialforschung, l'Institut pour Recherche Sociale, a été fondé en 1923, et encore une fois, et il devient l'école de Francfort en 1950. Ou plus exactement, l'école de Francfort, encore une fois, c'est un terme non propre, hein, et on peut le remplacer, d'ailleurs, c'est le propos des intellectuels de l'école de Francfort, par la formule théorie critique de la société. Là encore, une antonomase. Hein. On a pris l'habitude de parler de l'école de Francfort, mais ceux qui constituent, qui sont les personnalités, les penseurs, les chercheurs qui ont été réunis dans ce cénacle à Francfort autour de l'université, des départements de philosophie, donc parlent de la kritische Theorie der Gesellschaft, la théorie critique de la société, et souvent par, alors là j'ai encore employé la rhétorique, par apocope. En coupant la fin, on dira la théorie critique, en mettant un grand T à théorie, pour montrer que c'est une appellation retenue. Pendant la guerre, les penseurs de l'école de Francfort, qui étaient d'ailleurs tous juifs, en plus d'être marxistes, s'étaient réfugiés aux États-Unis après avoir tenté de passer par la France, qui entre-temps, comme vous savez, a été envahie par l'Allemagne nazie, et se sont donc repliés aux États-Unis, et ils ont eu la chance d'être accueillis à la Columbia University dans l'État de New York. À vrai dire, ils avaient bénéficié d'un capital qui est que un des élèves de ces intellectuels, Félix Feil, avait fait fortune en Argentine dans le commerce des blés. On ne peut plus tellement, je ne sais pas si on peut encore maintenant faire fortune en Argentine, mais l'Argentine à cette époque était un pays prospère, un pays riche. Ces intellectuels se sont retirés aux États-Unis, et en 1950, ils sont revenus de l'exil américain, et ils ont réinstaller à Francfort l'école qui du coup est l'école de Francfort, de nouveau à Francfort, autour d'une personnalité marquante qui est Max Horkheimer, H-O-R-K-H-E-I-M-E-R. Max Horkheimer, qui était le philosophe du groupe et qui a marqué le programme de l'école de Francfort par un article important qui s'intitulait « Traditionnelle und kritische Theorie »,« Théorie traditionnelle et théorie critique ». Et donc Horkheimer et Adorno, qui étaient plus jeunes que lui, qui étaient un peu son élève, ont donc reconstitué l'école de Francfort à Francfort. Et c'est dans ce cadre-là que Habermas avait fait sa grande thèse, ça s'appelle en habilitation. Maintenant, on a adopté les systèmes allemands, et donc la grande thèse habilitation a donné lieu à l'HDR, c'est-à-dire habilitation à diriger des recherches. Avant, c'était la thèse d'État, qui était l'œuvre d'une vie. Et l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches, permet une plus grande souplesse. C'est pas forcément un pavé, une somme de 1000 pages sur un sujet. Et ça permet de faire une place à des recherches qui peuvent être plusieurs pluriels, quoi. Ce qui correspond plus à la recherche, puisque Habermas en est un exemple, et très modestement moi aussi, mais beaucoup d'autres, on a souvent un objet, une discipline principale de référence, mais d'abord elle peut donner lieu à des approches diverses, et puis souvent nous avons tendance à aller regarder, je dirais vulgairement, dans la gamelle du voisin et à faire des travaux qui ne sont pas strictement, dans le cas précis, de l'ordre de la philosophie. Habermas avait fini sa grande thèse, son habilitation, en 59, mais Horkheimer, qui était donc le patron de l'école de Francfort, qui était assez, je dirais pas autoritaire, mais c'est lui qui commandait, c'était vraiment lui le patron, il a considéré que Habermas devrait faire encore une étude de sociologie empirique avant de pouvoir être admis comme professeur à l'Université de Francfort. Et alors sa thèse, cette habilitation, qui s'appelle en allemand Strukturwandel der Öffentlichkeit. Je prends le texte allemand parce qu'il y a un problème de traduction. Strukturwandel, c'est changement de structure, ça ne pose aucun problème. Mais Öffentlichkeit, öffentlich, ça veut dire public. Donc, en toute rigueur, Öffentlichkeit, littéralement, si on fait une traduction sourcière, pour reprendre ma terminologie, ça donnerait publicité. Sauf qu'en français, le mot publicité est celui qui a remplacé la réclame. Et là, on est très embarrassé, c'est tout ce qui est de l'or, tout ce qui est public. Alors, dans la traduction de cet ouvrage important qu'a fait Marc Delaunay, on a finalement choisi un titre qui est imparfait, qui est l'opinion publique, mais il n'était guère possible d'en trouver un autre. Et on ne pouvait pas mettre changement de structure de publicité parce que cette traduction littérale, sorcière, n'aurait pas fait sens en français. Dès avant la soutenance d'ailleurs de cette habilitation, Habermas avait été appelé à occuper un poste de professeur. Alors, on traduit l'allemand extraordinaire, non pas que ce soit fabuleux, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans, qu'il ne fait pas partie de, n'est pas reconnu comme dans l'ordre. Il n'y a pas un ordre des médecins, il y a un ordre des professeurs. Et quand on est un vrai professeur, on est un ordinarius. Et à ce moment-là, il était professeur extraordinaire, c'est-à-dire pas encore ordinarius, à l'université de Heidelberg, que je connais bien, Heidelberg est une jolie ville allemande au bord du Neckar, et qui est une des rares villes allemandes qui n'a pas été détruite par l'aviation américaine et qui est centrée autour de son université. C'est vraiment comme Marbourg, ces villes universitaires allemandes qui, dans le cas de Heidelberg, ont gardé leur spécificité urbaine et architecturale et humaine, et l'université est un peu au centre. Et d'ailleurs, cette ville de Heidelberg est dans une vallée, la vallée du Neckar, et autour de la ville, il y a donc une montée, des montagnes, petites montagnes, boisées, et souvent les maisons, les villas ou les cités universitaires sont en amont de l'université, dans les bois. J'ai eu le bonheur d'y être pendant toute une année, plusieurs années de suite, et d'y apprendre beaucoup de choses, et d'autant que j'étais à la fois, dans un premier temps, étudiant, et dans un deuxième temps, j'assurais des cours d'été à l'université de Heidelberg, aussi bien en sciences du langage qu'en philosophie. J'avais le privilège de faire un cours sur Heidegger en allemand, et c'était de la haute voltige, et on voit l'attitude des étudiants allemands qui sont très, du moins à ce temps-là, très intéressés au travail intellectuel. Je sais que mon cours s'adressait beaucoup aux Français qui venaient apprendre l'allemand, mais j'avais aussi beaucoup d'étudiants allemands. Et après coup, dans une bonne tradition allemande, nous nous retirions dans un salon de thé, Schaffhäutle, qui était le lieu obligé et qui était une grande pâtisserie, salon de thé, avec derrière un jardin et une sorte de ruisseau, de mini-lac. Et alors, une partie surélevée que nous appelions Académie, et il me revenait le privilège, après mon cours sur Heidegger en allemand, auf Deutsch, de poursuivre la conversation avec des étudiants allemands qui sont devenus entre-temps mes amis, comme Klaus Stichwe. Alors, avant de laisser, de faire la place au Babino, je veux quand même préciser que Heidelberg, j'en ai parlé en termes anecdotiques et touristiques et personnels, mais c'était surtout l'université où enseignait Hans-Georg Gadamer, G-A-D-A-M-E-R. Et Hans-Georg Gadamer est le philosophe contemporain de l'herméneutique. Alors l'herméneutique, le terme est peu courant en français, et après le Bobino qui va passer, j'en viendrai à préciser un peu le sens de ce terme herméneutique.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Le concept d'herméneutique est, je dirais, courant, enfin reçu dans la tradition allemande pour plusieurs raisons. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire herméneutique? C'est la science de l'interprétation, la discipline qui prend en charge l'interprétation. Ça vient du grec herméneia, qui veut dire interprétation, description, traduction. On aura remarqué que la façon dont nous, contemporains, modernes, nous utilisons les termes grecs consiste souvent à les figer sur une signification principale. C'est particulièrement vrai pour les prépositions, mais d'une façon générale, la tendance à la modernité est à la terminologisation. Alors que les Grecs, et en partie encore les Français du XVIIe, et avant le travail de la scolastique, gardaient une certaine ouverture sémantique, une certaine souplesse sémantique. Alors, donc le terme veut dire maintenant discipline qui prend en charge l'herméneutique, et on conçoit que ça a été très important dans la tradition allemande, compte tenu du schisme occidental. Comme on sait, Luther, après qu'il y ait eu des tentatives de de le garder au sein de l'Église catholique. Il était un homme très colérique, très sûr de ses affaires. Il a donc fini par fonder une église, l'église protestante, l'église luthérienne. Et alors, ce qu'apporte, enfin, je résume le problème, la position de Luther, on pourrait la résumer par trois formules: sola fide, sola scriptura, sola, et voilà que. Sola fide, sola scriptura, et il me manque, j'avais pas prévu de faire ce petit excursus là-dessus, ça va me revenir tout à l'heure. Et, autrement dit, l'insistance est mise sur la foi seulement, par opposition avec tradition catholique, puisque Luther se démarque de la tradition catholique, où, et moi de ce point de vue-là, je suis très, très favorable à l'ampleur du catholicisme, de la pensée catholique. Donc, ce n'est pas seulement la foi, mais la foi et les œuvres. C'est-à-dire que un bon chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui a la foi, c'est aussi quelqu'un qui se comporte conformément à la doctrine, à l'Écriture. Sola scriptura, ça veut dire que seule l'Écriture compte. Il va y avoir une valorisation énorme des textes sacrés, alors que dans la tradition catholique, comme on sait, il y a deux sources de la foi. Il y a d'abord l'Écriture, les Évangiles, c'est très clair, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais en même temps, il y a une tradition de continuité qui s'instaure entre le Christ et ses apôtres, et puis à travers les pères de l'Église, à l'Église catholique. Et donc, on voit que là, il y a une différence importante. Et alors, ce clivage, cette séparation qu'introduit Luther et cette importance de l'Écriture, sola scriptura, par la seule Écriture, fait que on n'a plus la référence au Père de l'Église qui assurait une continuité avec l'héritage chrétien. Si bien qu'il y a eu tout travail important d'interprétation du texte. D'abord, Luther a fait une traduction de la Bible. Cette traduction est, pour ainsi dire, l'acte de naissance de l'allemand moderne, enfin moderne, oui. On peut dire que, pour parler un peu grec, je dirais Luther a été logothète, ou plus exactement, il est créateur de l'allemand. Mais en même temps, à partir du moment où seule l'Écriture, en l'occurrence dans sa traduction allemande, devient la seule référence de l'Église luthérienne, il se pose la question de sa lecture, de son interprétation. Et comme on sait, à l'Église, il nous est, à chaque messe, on lit un passage de l'Écriture avec un commentaire qui est fourni par le prêtre. En allemand, dans la tradition, l'interprétation, l'herméneutique, est une discipline importante. D'autant qu'à partir du moment où le luthéranisme se sépare de l'Église catholique, ça crée un problème institutionnel, puisque dans l'Église catholique, dans l'Église romaine, il y avait coïncidence entre le pouvoir temporel, puisqu'il y avait les états pontificaux et le pouvoir spirituel, le pouvoir intellectuel. À partir du moment où l'Église n'a plus son pouvoir matériel à travers les états pontificaux, c'est les biens qu'elle possède et administre pour le bien des fidèles, le luthéranisme a été conduit à confier aux nobles, à l'aristocratie allemande, le pouvoir temporel et à se réserver le pouvoir intellectuel, le pouvoir spirituel. Alors, ça a eu des effets politiques. On conçoit que l'aristocratie allemande a gardé une très grande importance et un rapport assez direct avec le luthéranisme. D'où aussi l'importance du rapport à l'autorité dans la tradition allemande, puisque l'autorité des nobles, en fait, est validée par le fait que c'est le pendant de l'autorité spirituelle. Par ailleurs, l'autorité spirituelle n'étant plus assurée par la Sainte Église, par les clercs de l'Église catholique, ce pouvoir est transféré à l'université. Et donc, l'université allemande va être auréolée, promue par ce rapport, cette fonction théologique. Et comme elle remplace le discours des clercs catholiques par un travail intellectuel propre, théologique, ce travail théologique repose d'abord sur l'interprétation du texte sacré. Et donc par l'herméneutique. On comprend donc que l'herméneutique est dans la tradition allemande une discipline tout à fait importante, puisqu'il s'agit de rien de moins que l'interprétation du texte sacré auquel, dans cet univers chrétien, déjà un peu ancien pour nous, tout se réfère plus ou moins. Alors, l'herméneutique est d'abord une discipline auxiliaire de la théologie. Elle interprète le texte et en même temps, le terme lui-même, comme souvent, a pris un sens un peu plus large et plus contemporain. Par exemple, le philosophe Heidegger, Martin Heidegger, introduit l'herméneutique dans sa philosophie et lui donne une place très importante métaphysique, c'est-à-dire que le rapport à l'être, c'est la question de Heidegger, est un rapport herméneutique. Donc je ne peux pas entrer dans les détails de cette problématique qui est très savante, mais en aval de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, que j'ai cité, qui était donc professeur à Heidelberg et qui a accueilli Habermas, et donc dans la foulée, dans la continuation de Heidegger, dont il a été l'élève, mais il donne à l'herméneutique un sens plus concret, plus précis, plus concret, disons, que l'ambition ontologique de Heidegger. Il s'inscrit dans la foulée, dans l'héritage de cette ontologie herméneutique, cette herméneutique ontologique, mais son œuvre principale, qui s'appelle « Wahrheit und Methode »,« Vérité et méthode », je dirais que le titre est un peu malheureux. Il semble que Gadamer ait pensé d'abord l'appeler « Hermeneutik », et puis il semblerait que l'éditeur ait pensé que c'est un peu rebutant. Wahrheit und Methode, c'était vraiment un texte plus, un intitulé plus transparent. Et c'est un ouvrage très important, de 800 pages, qui comporte essentiellement trois intérêts. Une herméneutique des sciences humaines, et là on va rejoindre Habermas, une herméneutique du langage, et une herméneutique de la tradition mythologique et politique. C'est vraiment un ouvrage très important pour la pensée contemporaine. Il a été traduit en français assez tardivement, d'abord de façon partielle, et puis il est maintenant disponible sous le titre de « Vérité et méthode ». Ça commence par un travail sur le langage, et Habermas va être largement influencé par justement la tradition herméneutique qu'incarnait Hans-Georg Gadamer à Heidelberg dans la foulée de Martin Heidegger. Et donc, en 1964, Habermas quitte Heidelberg parce qu'il est nommé professeur à l'université de Francfort, professeur ordinarius, vrai prof. PR, comme on dit dans le jargon universitaire actuellement, il est nommé professeur de philosophie et sociologie. Et ça, c'est très marquant. Au début, j'indiquais Habermas, c'est un philosophe-sociologue ou un sociologue-philosophe. Et donc, il ne sépare pas, il ne met pas de coupure entre la philosophie et la sociologie. Et anecdotiquement, il est nommé professeur, paradoxalement, sur la chaire de Max Horkheimer, qui, dans un premier temps, avait refusé son habilitation à Francfort et qu'il avait amené à faire un détour par Heidelberg. Il occupe la chaire de Max Horkheimer, qui était retraité, comme il se doit, comme on regrette de l'être quand on est universitaire. Et il devient en cela le collègue de son ancien maître, Theodor Wiesengrund Adorno, dont je pourrais dire quelques mots. C'est encore une fois un des héros fondateurs de l'école de Francfort. Max Horkheimer ayant été le patron, Adorno s'appelle Adorno, A-D-O-R-N-O. D'ailleurs, en fait, son vrai nom, c'est Wiesengrund, mais il a pris comme nom le nom de jeune fille de sa mère, qui était d'origine corse. Et donc, Adorno est devenu Adorno. Il est dans un premier temps, Adorno, le collègue, mais plus jeune, de Max Horkheimer. Les choses se répètent, c'est-à-dire que Adorno devenant entre-temps le porteur du drapeau, de l'enseigne de la théorie critique de l'école de Francfort, Habermas y étant intégré, devient un collègue plus jeune par rapport à Adorno, son ancien maître, comme Adorno l'était par rapport à Max Horkheimer. Une sorte de filiation de disciple, de maître à disciple. Alors, quelques mots peut-être sur Adorno et Horkheimer. On leur doit un livre très important qui s'appelle, en allemand, Dialectik der Aufklärung. Et là, on est encore une fois, si je passe par l'allemand, c'est pas par pédantisme, par cuistrerie, c'est parce qu'il y a un problème de traduction. Dialectik der Aufklärung, je pourrais dire dialectique, ça c'est pas un problème, dialectique de l'Aufklärung. Alors c'est quoi Aufklärung? Aufklärung, c'est notamment les Lumières, le siècle des Lumières. Et on peut le traduire par les Lumières en français, par Illuminismo en italien, par Illustration en espagnol, ou bien par Enlightenment en anglais. Mais toutes ces traductions renvoient en fait aux Lumières comme une date historique, comme ce travail qui s'est mené au XVIIIe siècle et qui s'est poursuivi après, mais alors pour la France, c'est les philosophes que j'ai indiqués, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, et puis des penseurs moins connus comme Helvétius, d'Holbach et d'autres. Tout ça, c'est les Lumières. Et alors, le terme allemand prend un sens plus ambitieux, puisque ce sont évidemment les Lumières comme étape historique de la pensée, mais c'est le processus de Aufklären, c'est clarifier en ouvrant l'esprit. Alors moi, j'avais proposé affranchir ou déniaisement, un déniaisement philosophique. C'est pas loin du prétendu wokisme, en un sens, éveillé. Alors, dans Aufklärung, il y a klar, qui est la clarté, auf, qui est l'ouverture, donc on ouvre à la clarté. Et alors, quand il s'agissait de traduire ce livre, qui a été publié, traduit à l'école chez Gallimard, on m'a demandé comment le traduire, parce que la traductrice, Eliane Kaufmann, s'était très gênée. Et alors, j'ai pensé que, compte tenu du sens de Aufklärung, Aufklärung, une bonne traduction, enfin une traduction passable, parce que la traduction est souvent en décalage par rapport au texte original, ça aurait été la raison critique. ça aurait été assez bien, sauf que la traduction par dialectique de la raison critique aurait eu l'inconvénient de sembler être un anagramme de la critique de la raison dialectique de Sartre. Et ça aurait été très mauvais pour le titre, pour le livre, si bien que j'ai recommandé de prendre comme titre « Dialectique de la raison ». Et alors, le titre, évidemment, est un peu restrictif par rapport à « Dialectique der Aufklärung » et surtout par rapport au livre lui-même, dont la logique est un travail de dialogue dialectique, c'est-à-dire de mise en regard et de critique dans l'histoire occidentale, entre le mythe et l'Aufklärung, la raison critique. C'est un livre qui est très fondateur et qui a l'intérêt d'être co-signé par Max Horkheimer et Theodor Wiesengrund Adorno. Et comme c'est un livre qui est constitué par différentes études, mais ce n'est pas seulement un ramassis d'études au hasard, c'est plutôt plusieurs approches complémentaires qui sont fondatrices dans ce livre Dialectique der Aufklärung. Ceci donc pour un peu éclairer l'idée de l'école de Francfort, dont je vais dire quelques mots avant d'attaquer, de revenir à la biographie intellectuelle et politique de Habermas. Je vais perdre mes papiers, non pas que j'ai besoin de mes papiers pour dire ce que j'ai à dire, mais je fais toujours un papier parce que c'est un pense-bête, le voilà. Voilà mon pense-bête. Donc l'école de Francfort, c'est le terme qui prend la succession de Institut für Soziale Forschung et qui est devenu donc la kritische Theorie, la théorie critique de la société. Ce qui est intéressant, c'est un néo-marxisme universitaire qui insiste sur la critique, son nom, théorie critique. Et je reviendrai un peu sur ces points-là quand je vais revenir à la trajectoire biographique et intellectuelle de Jürgen Habermas. C'est une reprise, un néo-marxisme très ouvert. Ainsi, Habermas qui incarne la deuxième génération d'école de Francfort, par rapport à la première génération de Adorno, par exemple, il y a chez Adorno une grande négativité, parce que c'est une lecture de la culture et de la société à la lumière d'une critique marxiste fondamentale de la société et de la culture. Alors que, je dirais, Habermas, dans la deuxième génération, l'école de Francfort, à travers lui, s'est un peu assagie. On y reviendra, Habermas est moins désespérément critique, radicalement critique que ne l'était Adorno, au point que j'avais eu comme formule, ce qui avait un peu choqué certains, c'est que Habermas glissait vers ce que j'avais appelé un méliorisme social-démocrate, d'esprit social-démocrate. Ce qu'il y a de certain, c'est que la pensée de Habermas vise à nous réconcilier avec la société que la première génération critiquait de façon radicale. Et pour ce faire, donc, Habermas va pratiquer une ouverture interdisciplinaire, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est-à-dire qu'il se réfère à Marx, bien sûr, mais pas seulement. Et quand j'ai parlé j'ai cité au début un livre qui s'intitule Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, pour une reconstruction du matérialisme historique, je n'ai commenté que le terme matérialisme historique. En réalité, Rekonstruktion, ça veut dire qu'on reconstruit une théorie après l'avoir, non pas déconstruite, mais analysée. Et dans la préface à ce livre, Habermas dit « Le marxisme doit être critiqué et repensé comme n'importe quelle théorie. » Et alors il repense un ensemble de concepts marxistes que nous allons voir bientôt. À ce propos, je veux dire que Habermas est un intellectuel tellement important que une heure d'émission ne suffira pas et que je serai amené à faire au moins une autre ou peut-être deux autres émissions ou plus sur Habermas, un peu comme Philippe Nemo nous avait fait gratifier de cette émission sur sur le nom m'échappe, les noms propres, ça c'est le grand âge, d'un penseur autrichien qui a eu une grande importance dans le libéralisme américain et que j'avais sur le bout de la langue, et ça me reviendra bientôt, tout à l'heure, avant la fin de l'émission, j'espère. Et donc, Habermas va intégrer à Marx Freud, Max Weber, Kant. Donc, il s'est assagi, il a assagi l'école. Il a introduit une sorte de rationalité plus objective, plus justement assagi. Et ce qui fait que c'est quand j'étais plus jeune, c'est ça qui m'a convaincu d'être de son côté, d'être habermasien. Je dirais que maintenant, je prends quelques distances, notamment parce que, compte tenu du fait que la société, la culture est devenue extrêmement difficile à notre époque, on a l'impression que le négativisme de la première génération de l'école de Francfort, avec Adorno par exemple, redevient actuel. Alors que quand j'étais jeune, il y a 20 ou 30 ans, je trouvais ça excessivement négatif. Ça me semblait un exercice de style d'intellectuel dans l'université. Eh bien, hélas, maintenant, ça correspond à la réalité de notre société, si bien que, habermasien que j'étais, et que je reste d'une certaine façon, je deviens un peu aussi adornien. C'était, je passe d'un néo-marxisme universitaire assagi à un néo-marxisme universitaire plus radicalement critique. Et peut-être un dernier mot, l'école de Francfort est à côté de la French Theory. Ce sont les deux écoles importantes qui participent à un travail de déconstruction de nos sociétés. Et il faudra que nous revenions dans une prochaine émission sur l'ensemble de ce que je n'ai pas encore dit. Et entre-temps, j'aimerais bien retrouver le nom Hayek, voilà. Donc, excusez-moi, j'allais dire qu'il ne revient pas. Autrement dit, Philippe Nemo, qui assurait l'émission de philosophie, avait consacré cette émission à Hayek, grand penseur. Alors, je ne pense pas que je consacrerai cette émission à Habermas, mais au moins deux et peut-être sans doute trois, peut-être plus, je verrai, ça dépendra un peu en partie des réactions des auditeurs. Alors je termine en remerciant Jocelyn, bien sûr, la technique de l'émission. Je ne remercie pas ma fidèle assistante, qui est Nicole, parce qu'elle n'a pas pu venir. Et je lui ai dit, ne vous en faites pas une obligation, il aurait fallu qu'elle se lève à 5 heures pour venir de sa campagne faire une heure d'émission. Et c'était un peu, ça aurait été de l'héroïsme. Je lui ai dit, ne poussez pas l'héroïsme jusque-là. Eh bien là-dessus, chers auditeurs, à lundi, non pas prochain, mais dans 4 semaines, où ce sera hommage à Habermas. Suite.
Vous venez d'entendre Paroles et Pensées de Jean-René Lannemiral, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 16 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.